Nous accueillons maintenant Cécilia. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir.
Comment allez-vous Cécilia?
Ça pourrait aller mieux, on va dire.
Ça pourrait aller mieux. Alors,
oui.
par où voulez-vous commencer?
Si, je sais pas si vous pouvez me poser des questions, ça m'aiderait un petit peu, enfin,
d'accord.
Si c'est possible.
D'accord. Alors, vous avez eu Florian assez longuement au téléphone, hein?
Oui.
Et j'ai lu dans la fiche qu'il m'a donnée que vous ne saviez pas où vous alliez. Pourquoi vous étiez sur Terre? Pourquoi vous doutiez de beaucoup de choses, en fait? En tout cas, il y avait pas mal de questions existentielles qui vous écrasaient un peu, qui vous souciaient, qui vous angoissaient.
Tout à fait. En fait, je me suis permise de vous appeler parce que j'ai remarqué que vous aussi, vous avez une très grande sensibilité, mais qu'a priori, vous arriviez à la gérer. Et moi, ce n'est pas mon cas et ça me joue des tours, en fait.
Quel âge avez-vous?
27 ans.
Alors, cette sensibilité dont vous parlez,
oui.
Vous savez que nous sommes beaucoup, hein, à l'avoir. J'allais emprunter le mot à souffrir, mais finalement, cette hypersensibilité, bien évidemment, elle peut nous faire souffrir parce qu'elle nous met dans un questionnement perpétuel sur tout un tas de choses et essentiellement aussi sur les autres parce que, comme je le dis souvent, on passe notre temps à se construire jusqu'au dernier jour. On est en pleine évolution, vous voyez, on est en pleine construction et on se construit en échangeant avec l'autre, en parlant avec l'autre, que l'on soit d'accord ou non, d'ailleurs, parce que on ne fait jamais l'unanimité, vous le savez. Il y a des personnes qui vont, par exemple, aimer beaucoup cette libre antenne, et puis d'autres qui vont la détester. Et ça, c'est comme ça. C'est le monde, c'est la vie. On ne peut pas toujours être d'accord, on ne peut pas toujours ressentir la même chose que l'autre. Parfois, on va dans le même sens que lui, et puis d'autres fois, on va dans un autre sens. Mais tout ça, tous ces sens, ces contresens, nous servent à nous confronter à l'autre et puis à se faire notre opinion, à se forger. Donc, pour cette hypersensibilité, déjà, j'aimerais vous dire qu'il faut, que vous l'acceptiez. Il faut que vous voyez que vous soyez... Vous êtes consciente que vous êtes hypersensible ?
Depuis pas très longtemps.
Qu'est-ce qui vous a fait penser et réaliser qu'il y a peu de temps, tout ça?
En fait, depuis à peu près un an, je me questionnais beaucoup et je regardais des vidéos sur la surdouance, parce
oui.
que je m'y retrouvais beaucoup. Mais j'ai jamais été détectée, bien que j'étais bonne à l'école ou quoi. Et du coup, je me suis tournée vers l'hypersensibilité et j'avais écouté, je crois, une de vos émissions, nos expériences de vie l'année dernière sur Europe 1 qui parlait de ça et ça m'avait aussi parlé. Et j'ai lu des livres et c'est vrai que je m'y retrouve aussi.
Oui, vous sentez que vous comprenez beaucoup de choses très vite?
Beaucoup d'empathie, je comprends beaucoup de choses, je me pose beaucoup de questions existentielles, enfin c'est... Oui.
Est-ce que vous redoutez la présence de l'autre? Est-ce que vous sentez que vous êtes timide ou est-ce que vous êtes plutôt
oui.
quelqu'un qui parle facilement?
Non, j'ai beaucoup plus de facilité à l'écrit que pour m'exprimer.
D'accord. Je lis aussi que vous êtes touché régulièrement par des petits riens qui produisent vraiment des émotions fortes chez vous et qui deviennent... vraiment une vague émotionnelle assez énorme et que ça vous submerge. Hein.
Exactement. Ça peut être un reportage aux informations, une nouvelle que je vais entendre à la radio, des gens qui vont discuter dans la rue, enfin tout et n'importe quoi.
Et ça vous pose un problème aujourd'hui? De quel ordre exactement, en fait? On viendra sur les questions qui vous angoissent, hein, des questions existentielles, mais... Votre rapport à l'autre, en fait, vous avez peur, vous manquez de confiance en vous?
Oui, je pense.
Vous avez peur de parler, de donner votre opinion?
J'ai beaucoup plus l'habitude que les gens se confient à moi que l'inverse, en fait.
Et pourquoi ça, à votre avis? Là, on est tous les deux, vous arrivez à me parler. Donc, à votre avis, pourquoi vous avez beaucoup plus de mal à vous confier?
Bah parce que vous, je vous connais indirectement à travers vos émissions et vous me touchez beaucoup et du coup ça me met en confiance. Et peut-être aussi parce qu'on ne se connaît pas, donc il y a moins la peur du jugement. Et sinon, c'est parce que dans ma famille, à chaque fois, les gens se confient beaucoup à moi, mais c'est pas réciproque.
Et pourquoi ça? Parce que vous n'éprouvez pas le besoin de vous confier aux autres?
Parce qu'on ne me demande pas, comme je dis rien, on ne me demande pas, on suppose que ça va, ou enfin ça a toujours fonctionné comme ça.
Est-ce que vous avez un compagnon dans la vie, un petit copain?
Non, j'en ai jamais eu.
Jamais?
Non.
Et pourquoi ça? Parce que vous êtes trop timide ou parce que ça ne vous intéresse pas?
Trop timide parce que j'ai eu des problèmes d'anorexie et parce que j'ai eu des problèmes d'inceste dans mon enfance.
D'accord. Problème d'inceste dans votre enfance. Vous aviez quel âge?
Entre 9 et 11 ans.
D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu évoquer avec un médecin ou est-ce que vous avez pu lâcher un peu
Oui.
les choses? Ouais.
Avec un psychiatre, je me fais suivre.
D'accord.
Et il y a un an, j'ai écrit une lettre à la personne concernée qui a reconnu les faits et qui s'est excusée et qui ne pensait pas que ça m'aurait fait du mal comme ça.
D'accord. Ça vous a fait du bien qu'il s'excuse?
Oui, certes, même si ça n'enlève pas tout, mais c'est déjà ça.
Alors vous savez que cette chose-là qu'il vous a fait vivre, cette personne-là, c'est à lui ça. C'est quelque chose qu'il faut lui redonner complètement. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne, ça ne fait pas partie de votre vie. Ça n'est pas à vous. Vous comprenez ce que je veux vous dire?
Je comprends, mais paradoxalement, je me sens sale parce que c'est... J'étais en partie dans l'action, moi je comprenais pas, je faisais ce qu'on me disait de faire, j'avais même pas les mots, je comprenais pas,
Oui.
mais du coup je me sens sale parce que je participais indirectement.
Oui, mais à 9 ans, vous savez bien qu'on peut être dans un état de sidération qui fait que. Vous savez, ce week-end, il y a un jeune garçon de 15 ans qui s'est ouvert à moi d'un événement qu'il a vécu quand il avait 11 ans, 12 ans, avec une personne proche de sa famille, un ami de la famille. Et il évoquait comme vous ce sentiment voilà, il était terrorisé d'avoir pu participer et être, comme vous le dites, dans l'action. Mais finalement, je lui expliquais que il n'était que qu'act... il n'était pas qu'acteur, il était vraiment spectateur de tout ça. Je sais que c'est difficile à admettre, mais. On avait l'autre jour un monsieur qui s'appelait Édouard et qui l'expliquait très bien. Il avait mis très longtemps à assimiler d'abord ce pardon, mais avant de pouvoir pardonner, il avait fait ce chemin important de comprendre que cette chose violente hein, qu'on lui avait fait vivre, cette chose mauvaise, qui donne ce sentiment de saleté et qui fait penser à un moment qu'on a été acteur de tout ça aussi, eh bien cette chose-là, elle appartenait à celui qui l'avait apporté. Vous voyez? Il faut que vous mettiez dans la tête cette image qu'il a apporté ça avec lui et que vous lui avez redonné, qu'il est reparti avec. En s'excusant aujourd'hui, ça vous a fait sûrement faire une grande partie du chemin. Mais maintenant, reste à réaliser que vous n'avez pas participé, mais que vous avez été soumis à celui qui vous a fait faire tout ça.
C'est ça.
Et que vous n'étiez pas actrice, mais que vous étiez l'objet dans tout ça. C'est quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui?
Bah, en fait, de mes 9 ans à mes 16 ans, j'ai complètement occulté occulté ce qui s'était passé et ça m'est revenu quand j'ai vu un documentaire à la télé qui parlait de ça.
Oui.
Et j'ai gardé ça pour moi, j'ai rien dit à ma famille, à personne. Et j'ai été forcée d'en parler quand j'ai eu une grave anorexie, que j'ai été hospitalisée et que là, la psychiatre m'a dit « Maman, il est temps de parler parce que vous êtes en train de vous détruire. »
Et aujourd'hui, est-ce que ça va mieux, cette anorexie, pardon ?
Bah, pas trop. J'alterne entre anorexie et boulimie, on va dire.
Je vois que vous aviez très bien réussi à l'école. Hein. Vous étiez souvent la meilleure élève. Vous avez fait des études aussi en fac. Vous avez obtenu quel diplôme ?
Un master en droit français et en droit italien. J'ai fait un double cursus. Je suis partie 2 années en Erasmus en Italie.
Oui.
Oui.
Et vous n'arriviez pas à tirer une fierté de tout ça ? Vous n'arrivez pas à... Vous travaillez aujourd'hui ? Vous avez trouvé un emploi ?
J'avais un emploi, mais j'ai été victime d'un licenciement économique et là, je vais commencer une nouvelle formation début novembre.
D'accord. C'est quoi cette formation que vous allez commencer ?
Pour être greffier.
D'accord. Bah, c'est génial, ça. C'est passionnant, non ?
Bah, ça me fait un peu peur parce que... Comme je suis très empathique et que je risque d'entendre des histoires pas forcément drôles, il va falloir que j'arrive à mettre de la distance, justement, et ça va être un peu un challenge.
Oui. Ça, c'est certain que vous allez entendre. Là, on ne peut pas être mieux placé qu'au cœur d'un tribunal. Ce métier de greffier, vous allez entendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais
oui.
Peut-être qu'il faut, dès maintenant, que vous vous disiez que... C'est une chance, parce que vous allez voir tout un tas de... Vous allez entendre tout un tas de récits, de vies, de destins souvent bouleversés. Et pour une jeune femme aussi intelligente que vous, et avec la sensibilité que vous avez, vous allez encore plus comprendre comment tout ça marche, parce que je ne veux pas croire ce soir qu'avec la sensibilité que vous avez et l'intelligence qui est la vôtre, qu'à un moment, vous ne puissiez pas mettre... tout ça à contribution et surtout à contribution pour vous. Parce que il y a un moment où il va falloir que vous soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Il va falloir que vous soyez... vous voyez, vous releviez la tête parce qu'il n'y a aucune raison de la baisser, cette tête. Et j'entends que vous subissez plus les autres et le monde qui vous entoure alors que vous y avez largement votre place. Est-ce que vous avez conscience que vous avez votre place ? Comme chacun d'entre nous, d'ailleurs.
Pas vraiment, justement. Non, c'est pour ça que j'ai souvent des idées noires. Parce que j'arrive pas à me sentir à ma place, pour ce moment.
Vous écrivez, hein, je crois.
Oui.
Ça vous fait du bien d'écrire ?
Ça me fait du bien, mais c'est de façon éphémère. Ça me fait du bien quand je couche sur le papier, mais après... Ça, c'est comme si j'avais rien fait.
Comment ça ? Comme si vous n'aviez rien fait ?
Enfin, comme si j'avais rien écrit. Enfin, c'est éphémère, en fait.
Vous ne relisez jamais ce que vous avez écrit ?
Non.
Pourquoi ?
Bah parce que je sais ce que j'ai écrit, donc je n'en ressens pas l'utilité, on va dire.
D'accord. Et lorsque vous pensez à ce que vous avez écrit, quel sentiment vous avez ? Est-ce que vous trouvez ça bien, ce que vous écrivez ? Est-ce que ça vous fait du bien d'écrire à ce moment-là ? Est-ce que ça a un effet, cette écriture, sur vous ?
Je sais qu'a priori, certains de mes écrits plaisent parce que je me suis fait un compte Instagram où je poste certains poèmes et parfois j'ai des gens qui mettent des commentaires. Ou...
Si on devait penser, tous les deux, là, un rêve pour vous, vous verriez où qu'est-ce qui ferait votre bonheur aujourd'hui, en fait ? Quelle est la place qui ferait votre bonheur ? Qu'est-ce que vous aimeriez que soit votre vie, en fait ? Est-ce que vous aimeriez, alors je vous guide, hein, est-ce que vous aimeriez pouvoir avoir un peu plus d'amis, parce que des amis, on n'en a pas non plus 36, hein, vous le savez. Il suffit
non,
d'avoir...
j'ai deux, trois bons amis, mais je sais que je peux compter sur eux.
Enfin, ça c'est énorme, ça, déjà. Ça veut dire que vous n'êtes pas toute seule.
Oui.
Bon, et ça, c'est un trésor énorme. On parlait tout à l'heure avec Bertrand, on parlait de son angoisse à jeter les choses. Vous savez, on possède beaucoup de choses finalement, mais quand on s'aperçoit, quand on réfléchit, on s'aperçoit que tout ça, ça n'a pas tant de valeur que ça. Et que quand on...
C'est superflu.
Oui, quand on décide de passer aux choses essentielles. Moi, je pensais à quelque chose ce matin. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un copain de ma fille tout à l'heure. Je lui disais, moi, j'ai jamais eu envie, comme certains hommes politiques, vous voyez, j'ai jamais eu de destinée pour le pays ou d'être connu à travers les pays ou même en France. Bon, j'ai fait mon petit bout de chemin, et ce qui fait qu'on me connaît un peu, mais je me suis toujours dit qu'on était chacun un monde à nous tout seuls et que c'était important, très important de construire le monde, notre monde à nous, hein, celui qui est en bas une fois qu'on franchit notre porte, hein, le pas de notre porte, une fois qu'on sort, mais même quand on est chez nous, hein, bien évidemment. Mais chez nous, on est plus protégé, on a l'habitude chez nous, on est avec les nôtres, on a des repères plus, normalement plus solides. Hein. Mais quand on sort... Voilà, la confrontation aux autres. Essayer vraiment d'être celui qu'on a envie d'être, ou celle qu'on a envie d'être. Et cette hypersensibilité, elle peut vraiment vous apporter aujourd'hui beaucoup de chaleur, en fait. C'est-à-dire le regard que vous pouvez porter sur les autres, l'attention que vous pouvez porter. Ça va, parce que j'ai lu que vous pouvez être très ému, même par un enfant qui pleure dans la rue. On est d'accord?
Oui.
Voilà, mais ça, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je trouve que c'est quelque chose de... C'est une richesse d'avoir ce type de sensibilité, vous voyez ? Parce que faire attention à l'autre, c'est toujours être conscient du monde dans lequel on vit, c'est toujours être en perception de l'autre. Alors, bien évidemment, par moments, lorsque on se confronte à l'autre et que ça se passe mal... Vous voyez, moi, toute la semaine dernière, j'ai eu une confrontation avec quelqu'un que je connaissais très bien et vraiment qui est quelqu'un qui est devenu en colère, qui est en colère pour tout un tas de choses, mais il s'est mis à être en colère après moi même, sans savoir vraiment pourquoi, ou alors s'engouffrer dans une fissure et puis se persuader de choses qui n'existaient pas. Mais en fait, j'ai vu combien, au début, j'étais touché par ça, combien j'étais ébranlé. Et puis, quand on a la chance d'avoir cette sensibilité-là, elle nous permet, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir beaucoup, beaucoup réfléchi avant. Hein. Quand on devient adulte, on a acquis déjà beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup réfléchi à tout un tas de choses. Il y a eu tout un tas de situations qui nous ont fait... réfléchir et qui nous ont fait grandir. Et donc, du coup, je me disais combien c'était une chance d'avoir cette hypersensibilité, même si elle était, parfois et souvent lourde hein, à porter, mais combien il fallait se répéter que c'était une chance d'être ému par l'autre. Et vous voyez, vous me disiez que les gens viennent vous parler.
C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai beau avoir mon casque sur les oreilles, sur le quai pour attendre le métro, et à chaque fois, c'est à moi qu'on vient demander l'heure, un renseignement. À chaque fois, c'est pour moi.
Ben ouais, mais c'est bien ça, non ? C'est que vous dégagez quelque chose qui donne confiance, qui donne l'envie de s'adresser à vous. Et ça, Cécilia, il va falloir que vous reconsidériez les choses, quoi, et vous dire que c'est une chance. Vous avez votre place, là, dans le monde que vous êtes créé, vous, le monde que vous êtes. Dans ce monde-là, vous avez ce rôle. Et prendre possession de ce rôle, c'est-à-dire l'assumer sans douter, en fait. Parce qu'on est toujours en proie au doute lorsqu'on est hypersensible aussi. On se demande si on fait bien les choses, on se demande si on fait assez. Hein ?
C'est ça.
Ouais. Mais généralement, on fait beaucoup. On fait beaucoup, et parfois beaucoup trop. Ça vous arrive d'avoir ce sentiment de ne pas en avoir fait assez ? Toujours culpabiliser pour l'autre,
oui.
Vous dire « j'ai peut-être pas fait assez pour lui » ou peut-être « ou c'est de ma faute ».
Aussi, oui. Mmh. Oui.
Vous en parlez avec le psy qui vous voit une fois par semaine ?
Oui, on en parle. Enfin, on parle entre de ça, oui.
Et alors, il vous dit quoi, vous ? Il vous dit... Alors, bien évidemment, c'est un psy. Hein, donc, bon. Il a dans votre... dans l'organigramme des personnes que vous rencontrez hein, dans la semaine, il a cette place-là d'être celui qui doit vous écouter sans vous juger. Et donc, c'est, bon, c'est une place particulière. Mais vous en parlez avec d'autres, vos amis, vous en parlez avec vos vrais amis, là, vos deux, trois amis sur qui vous pouvez compter ?
Non, j'en parle pas vraiment.
Ils se rendent compte de ça, un peu, que vous êtes hypersensible, que...
Bah, y en a deux qui s'en rendaient compte parce que parfois au travail, ça me jouait des tours. J'étais téléconseillère et ça m'arrivait parfois, genre tous les mois et demi, de sortir pendant une pause et de pleurer parce que j'ai eu un client chiant. Donc forcément, j'étais un peu cataloguée comme là. mais sinon, non.
Vous devriez partager un peu plus ça avec eux, je trouve. Devriez... Parce que parfois, vous avez ces questions-là qui... Alors, venons-en à ces questions qui vous étouffent un peu. Est-ce que le temps, est-ce que l'éternité, est-ce que la mort sont des idées-là qui vous étourdissent ?
Bah, honnêtement, moi, la mort, elle ne me fait pas du tout peur.
D'accord.
Si je me disais que je vais mourir demain, ça ne me poserait pas de problème.
Mais alors, quand vous dites « où vais-je » ?
Justement, je ne sais pas pourquoi. Bah, « où vais-je » c'est dans le sens « où vais-je » je ne sais pas pourquoi je suis là, en fait.
Est-ce qu'il faut savoir absolument pourquoi on est là, à votre avis ? Là, quand bah, on parle ce soir ?
Je pense, parce que si on a une direction, un but, ça aide, j'imagine.
Mmh. Mais là, quand on parle ce soir ensemble... En fait, même si vous dites que vous êtes plus doué à l'écrit qu'à l'oral et que vous voulez qu'on vous pose des questions, vous avez quand même une facilité à répondre à ces questions. Le rôle que vous jouez aujourd'hui, finalement, c'est votre place, là, celle que vous avez prise auprès de ses amis, déjà, sans doute auprès de ses collègues de travail que vous avez eu, puisque ce travail s'est un peu interrompu et que vous allez faire une formation pour être greffière, mais cette confrontation à l'autre, vous savez la mener quand même. Vous, jusqu'à maintenant, vous avez pu travailler et assurer votre travail. Ça s'est passé comment, ce travail ? Vous arriviez à le faire ou quand vous dites
ça
que...
Ça s'est passé...
Allez-y, dites-moi.
Ça s'est passé, à ma grande surprise, ça s'est passé très bien. J'avais 98% des personnes qui étaient très aimables avec moi au téléphone, donc là-dessus, j'ai eu de la chance.
Et pourquoi, à votre grande surprise ? C'est drôle de dire ça. Pourquoi ?
Bah, parce que je savais pas. Hein. La relation client, téléconseiller, on ne s'était jamais trop encourmé les pieds. Et, donc, après, moi, c'était pas de la vente, c'était plus de l'assistance. Donc, ça me plaisait plus. Et du coup, je pense que ça se ressentait. Enfin, je ne sais pas trop.
Mmh. Et ça avait à voir avec votre cursus universitaire de droit ?
Pas du tout.
Pas du
ça
tout.
Me permettait de pratiquer les langues vivantes. Mais si vous voulez, quand on sort de l'université de droit, il faut passer des concours pour pouvoir faire des métiers en rapport avec notre filière. Mais sans concours, on ne peut pas vraiment faire de métier directement comme ça.
Il faut quoi ? Il faut aller dans un cabinet, par exemple, et faire avoir
Soit
une
le
évolution.
concours pour faire l'école d'avocat, soit le concours pour l'école de greffier, soit le concours pour l'école de la magistrature, soit le concours pour notaire, soit le concours
D'accord.
pour huissier. Enfin, tout est sur concours, en fait.
D'accord. En fait, vous avez fait une partie du chemin et en fait, au bout, il faut que vous fassiez une spécialisation, c'est ça?
C'est ça, oui.
D'accord. C'est greffière qui vous branchait vraiment? Vous ne vous voyez pas avocate?
Non. À
Non?
la base, mon rêve depuis mes 12 ans, c'était d'être juge pour enfants.
Ouais.
Mais à cause de mon hypersensibilité, justement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible et qu'il me fallait un métier où je ne sois pas vraiment en première ligne, mais plus en seconde ligne, on va dire.
C'est-à-dire que la mission qui est celle des juges de devoir décider hein,
Oui.
pour quelqu'un d'autre, c'était quelque
C'est
chose
ça.
qui était impossible pour vous.
Tout à fait.
Bon, mais ça peut le devenir possible. Ça peut
Ah,
le
ne
devenir un
jamais dire
jour.
jamais.
Ouais, non, jamais dire jamais. Déjà, vous allez être greffière. Cette formation, elle dure combien de temps?
18 mois.
18 mois.
Alterne entre école et stage.
D'accord. Et au bout de 18 mois, vous vous retrouvez dans un tribunal.
Oui.
Ok. Vous êtes dans quelle région, Cécilia?
En Île-de-France.
D'accord. Donc, il y a beaucoup de tribunaux en Île-de-France.
C'est ça.
Et vous êtes OK avec cette formation-là, en fait, à part, bien évidemment, la peur de devoir entendre tout un tas d'histoires qui devront ne pas trop vous impacter. Est-ce que cet avenir-là, il vous...
Ça me fait peur un peu parce que je vais être beaucoup à Dijon et je vais devoir quitter les quelques amis que j'ai à Paris et mon psychiatre et j'ai énormément de mal avec les séparations, j'ai des problèmes d'attachement en fait depuis que je suis petite.
Bah alors Dijon, hein, c'est à côté Dijon. Il y a le TGV qui va à Dijon. C'est pas très très loin encore Dijon. Vous allez pouvoir rentrer le week-end.
Oui, sûrement.
Bah, il va falloir. Vous savez, ce qui vous attend là, durant ces 18 mois, puis 18 mois, pardon, c'est court hein, finalement. Vous allez voir, ça va passer vite. Mais ce qu'il faut, c'est que vous aménagiez vraiment votre vie là. Elle commence quand cette formation?
Mi-novembre, dans un mois.
Dans un mois. Bah écoutez, faut vraiment l'aménager de la meilleure manière qui soit. Je préfère vous parler là de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Parce qu'on pourrait parler des heures, bien évidemment, tous les deux. Mais déjà, dans cette formation qui arrive, il faut vraiment pas hésiter à l'aménager de la meilleure manière qui soit pour vous. C'est-à-dire, si vous avez un problème avec la séparation, si vous avez peur même, hein,
Oui.
il faut assumer hein, ses peurs. Il faut, voilà, il faut se dire j'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit. C'est pas honteux d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir mal. J'ai le droit de pleurer. J'ai le droit d'être malheureuse. J'ai le droit. Et qu'est-ce que je mets en face de ça? Souvent, en fait, j'ai un ami. Je le cite souvent dans cette émission, cet ami, parce que c'est un ami avec qui je jouais au football quand j'avais 15 ans. Et il est aujourd'hui devenu l'entraîneur des gardiennes de football hein, de l'équipe donc d'Australie, l'équipe nationale d'Australie. Et on se voit deux fois dans l'année. Mais c'est marrant, à chaque fois que je le vois, il me dit, tu sais, moi, quand j'ai une décision à prendre, vraiment, à chaque fois, je fais ça. Je prends une feuille et puis je tire un trait au milieu. Et puis, je mets toujours d'un côté ce qui est positif et puis de l'autre ce qui est négatif. Et puis après, je fais le compte et je vois vraiment, ça m'aide vraiment à mettre de
Je fais
l'ordre dans
ça
mes idées.
aussi.
Vous faites ça aussi?
Oui.
Ouais. Bah là, ça va être pareil pour ces 18 mois qui arrivent. Il va falloir que vous fassiez ça si vous ne l'avez pas encore déjà fait, parce que peut-être que c'est fait. Pardon, j'ai un petit chat.
Non, c'est pas encore fait.
Bah, il va
J'avoue que
falloir le
j'ai
faire.
du mal à me projeter.
Mais il va falloir le faire parce que vous savez, vous êtes très intelligente, donc vous savez, vous avez identifié tout ce qui vous fait peur, tout ce qui peut vous faire mal ou tout ce qui peut vous faire dysfonctionner, c'est-à-dire quitter, se séparer momentanément de gens qu'on aime, qui nous rassurent, se séparer d'un environnement qui nous rassure aussi, de même de des rues qu'on aime bien, des commerçants qu'on aime bien, de nos, toutes nos petites habitudes, sauf que notre vie, on sait qu'elle est comme ça. On sait que toute la vie, ça sera comme ça. Notre vie, je dis souvent à ma fille, tu sais, la vie, ça sera toujours des, voilà, des confrontations aux autres qui ne se passeront pas obligatoirement bien. La vie, elle sera faite de plein de bonnes choses, mais elle sera aussi faite de beaucoup de trahisons, beaucoup de gens en colère, beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec toi, parfois pour rien, et il va falloir affronter cette vie-là. Vous, Cécilia, la nature a fait bien les choses quand même, parce qu'elle vous a, offert cette capacité de réfléchir et de connaître beaucoup de choses, cette hypersensibilité qui est liée à votre intelligence. Et ça, il faut vraiment pas quitter ça de votre conscience. Hein. Il faut que vous soyez bien consciente que c'est une richesse énorme. Et même si cette hypersensibilité, bien évidemment, comme vous l'avez dit, elle vous atteint parfois, si vous faites le trait là, au milieu de la feuille, regardez combien elle vous amène en sensations, en choses fortes. Vous vous êtes déjà posé la question de vivre des sentiments forts comme ça, d'être submergé par... Alors quand ce sont des choses négatives, c'est sûr qu'il faut se battre, mais je suppose que pour les choses positives, c'est souvent aussi le cas, non ? Vous êtes submergé aussi.
Oui, mais au final, ça redevient toujours en négatif, comme par exemple s'attacher très fort à quelqu'un et après on s'éloigne de la personne pour des raisons de parcours ou quoi, ou... Enfin, ça retombe toujours, en fait.
Si vous n'avez pas encore réussi à avoir quelqu'un dans votre vie, un amoureux, où est-ce que vous en êtes dans votre tête par rapport à ça ? Vous pensez que ça sera toujours comme ça, ou vous gardez en vous l'espoir qu'à un moment, cet amour-là, puisse être quelque part là et vous ne vous êtes pas encore croisés ? Est-ce que vous y croyez à ça ?
Je préfère m'attendre à rien, comme ça, si ça se passe, ça se passe, et si ça se passe pas, ça se passe pas.
D'accord, mais ça veut dire que vous n'êtes pas fermé. Voilà, vous n'êtes pas fermé à l'idée d'aimer un jour.
Non.
Bon, bah, c'est bien ça, non ? Vous devez pas souvent en discuter, ça, de ça.
Pas trop.
Ouais. Mais bon, voilà, c'est bien que vous ne soyez pas fermé à cette idée-là. Parce qu'un jour, ça vous tombera sans doute dessus. Hein. Voilà, et ça sera... C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Mais je pense que le fait de réaliser que vous n'êtes pas du tout fermé, ben c'est bien, déjà. Pas vous dire que ça vous est interdit ou que c'est quelque chose qui vous est insupportable. Revenons-en à la question que je vous posais. Si dans un monde idéal, en fait, vous voudriez que votre vie elle ressemble à quoi ?
Je suis pas sûre que ça va être la réponse que vous attendiez, mais pour moi, le monde idéal, ça serait un monde où il n'y a plus du tout de souffrance pour personne.
Pourquoi vous dites que ça ne me convient pas ? Ça me convient parfaitement. Mais on sait que ça va être difficile à obtenir.
Oui.
Mais vous pouvez essayer d'évoluer dans un monde que vous faites aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on passe le pas de sa maison, là, ça va des personnes qu'on croise dans la rue, ça va des commerçants, ça va... au taxi qui vous emmène quelque part. Vraiment avoir cette chance de pouvoir partager. Parce que vous avez du mal à partager avec un... Vous me disiez tout à l'heure, même si j'ai mon casque sur les oreilles, on vient me demander des choses à moi. Mais est-ce que vous avez du mal à parler aux autres ?
Oui, moi je préfère galérer à trouver quelque chose, à mettre 5 minutes de plus, mais j'aime pas aller vers les autres, j'aime pas déranger.
Ah, vous avez l'impression de déranger.
Oui.
Ouais. Et ça depuis toujours.
Oui, je dirais que oui.
D'accord. Ça, c'est le manque de confiance en vous, ça.
Bah, mon psychiatre m'a dit que j'avais un peu une phobie sociale, donc c'est peut-être un peu lié à ça, je pense.
D'accord, il vous a dit que vous aviez une phobie sociale. Et vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je pense qu'il a raison.
Ça veut dire que vous avez peur du groupe ou vous avez peur de l'autre?
Les deux.
Les
J'ai peur
deux.
du groupe et j'ai peur de l'autre. Et quand je vais dans un nouvel endroit, je mets très longtemps à m'adapter à mon nouveau travail. Il m'a fallu 9 mois avant de me sentir bien et de faire des connaissances.
D'accord. Vous vous sentez en danger ou vous vous sentez mal, pas à votre place en fait quand vous intégrez un nouvel endroit comme ça?
C'est parce qu'en fait, j'ai besoin d'absolument cerner l'autre à fond. Avant de savoir un peu à qui je peux faire confiance.
D'accord. Mais en même temps, je pense qu'on est pas mal être comme ça. Vous voyez? Quand on intègre une nouvelle équipe ou un groupe, à regarder les uns et les autres, et puis à se faire son idée, et puis le temps faisant son œuvre, à arriver à définir dans sa tête avec qui ça colle, avec qui ça peut coller, et puis avec ceux avec qui ça collera pas du tout. C'est normal, hein, d'être comme ça. Non, vous croyez pas?
Oui, mais moi, ça prend énormément de temps quand même. Enfin, c'est un
Ouais,
peu
mais
long, quoi.
ouais, c'est un peu long, mais il faut vous accepter que c'est un peu long. C'est peut-être parce que vous, voilà, sûrement parce que vous vous posez plus de questions que les autres et vous avez plus besoin de définir les choses et puis d'être rassuré. C'est
Ça.
sûrement quelque chose qui s'améliorera, vous voyez, avec le temps. Mais voilà, dans la nouvelle fonction qui est la vôtre, on travaille beaucoup en équipe ou pas, je m'en rends pas
Oui,
compte. Oui.
je pense. On est tout le temps. En fait, en résumé, c'est un peu le secrétaire du juge, dans le sens qu'il va être là aux audiences, il va être là partout, il prend des notes. Donc oui, on travaille surtout en binôme, je pense.
Moi, j'ai l'impression en tout cas que ce choix professionnel, il va vous apporter énormément. Vous voyez? Je pense que vous avez vraiment besoin aujourd'hui de consommer vous voyez, de l'humain, des histoires, de vous remplir la tête, de vous occuper la tête et dans un métier en plus où c'est de l'humain, vous voyez? Et je pense que ce métier va vous apporter énormément. Même si il peut vous chambouler, par moments, il va vous chambouler. Il va sans doute vous secouer par moments, c'est ça. Mais je vous imagine vraiment. Je vous imagine vraiment intégrer toutes ces histoires, vous voyez, vous en imprégner. Et surtout, ce rapport qu'on peut avoir avec le juge ou les juges pour lesquels vous allez travailler, ça va être. Je pense que vous allez être un excellent élément. Excellent. Vous avez réfléchi à ça, à ce boulot-là, quand vous allez être en place, quand vous aurez passé ces 18 mois de formation et que vous allez commencer à travailler sur toutes ces histoires. Parce que vous savez que les tribunaux sont quand même pas mal engorgés et que du boulot, là, on croule sous le travail, hein.
Ça me fait pas peur
Non,
parce
je sais que ça vous fait
que.
pas peur. Parce que.
Que ce soit mes études, je faisais un double cursus, donc je travaillais beaucoup et à mon ancien travail, je faisais beaucoup d'heures supplémentaires parce que j'étais volontaire, donc ça me fait pas peur la charge de travail.
Est-ce que cette charge de travail, c'est pas quelque chose qui vous rassure aussi, qui vous nourrit énormément, qui
Oui,
fait
ça me
que
remplit, je pense,
ça vous
oui.
remplit, ouais. On vous a dit que vous étiez, pardonnez-moi, on vous a dit que vous étiez hyper active, je suis sûr, à vouloir travailler tout le temps comme ça.
Non, on
Non?
m'a pas dit ça, on me l'a
D'accord.
pas dit, mais non.
Moi, je vous dis ça parce qu'en fait, souvent, moi, j'ai toujours besoin de travailler, vous voyez? Parce que je sais que travailler aujourd'hui, ça m'empêche de sentir ce vide. J'ai ce sentiment. Vraiment, quand je m'arrête de travailler, de vide, comme si je ne servais plus à rien. Et donc, il faut
Ouais.
toujours que ça marche là-haut, que ça gamberge. Vous voyez que. Parce qu'autrement, je me sens. Oui, vide. Vous avez cette sensation-là aussi?
Oui, moi aussi.
Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est de bien réaliser qu'il faut accepter ça. Vous voyez, qu'on est comme ça, parce que parfois, en fait, quand on est comme ça, on peut donner l'impression de négliger les autres aussi. Je vous parle de l'entourage, là. Vous voyez, d'être tout le temps dans le travail. Mais finalement, c'est notre équilibre, hein, ça. L'équilibre de tout le temps se nourrir de quelque chose, de tout le temps faire marcher ses méninges, parce qu'autrement, si elles arrêtent de marcher, et qu'on est sur un temps d'oisiveté, par exemple, ça ne marche pas.
C'est sûr.
Et que le vide, c'est pas pour vous, le vide.
Non.
Là, vous allez être occupé. Mais si je reviens donc à l'angoisse de ces 18 mois à venir, c'est plus de quitter vos repères.
Oui.
Alors, comment vous êtes projeté là ?
Je ne me suis pas vraiment projetée. Quand je serai sur place, je ferai avec. Mais je sais qu'il me faut beaucoup de temps. Quand j'étais à la fac, c'est pareil. Il m'a fallu un an avant que je me sente bien. Enfin, je sais pertinemment que la première année va être très difficile.
Mais Cécilia, aujourd'hui, vous avez 27 ans. Vous avez vécu déjà ces arrivées dans des nouveaux endroits, avec des nouvelles personnes, des nouveaux groupes, des nouvelles petites sociétés comme ça dans lesquelles vous deviez prendre votre place, affronter le regard des autres, affronter le jugement des autres. Maintenant, vous avez une certaine expérience de tout ça, non ?
Oui, je vois bien, mais au travail, je vous dis, ça m'a pris 9 mois.
Ben ouais, mais ça prendra peut-être encore ce temps-là, hein, vous savez. Mais est-ce que c'est grave, en fait, finalement ? Non. C'est peut-être... quand on y pense comme ça, c'est peut-être un peu dur de se dire « Oh là là, je vais me passer encore une période qui va être difficile, qui va être dure », mais vous l'avez déjà passé, cette période ?
Oui, c'est sûr.
Mm-hmm. Mais durant cette période, c'est là où vous dysfonctionnez au niveau de la nourriture ? Quand vous êtes angoissée, vous... L'anorexie, oui. La boulimie ?
Oui, entre autres, oui. Mm-hmm.
Et vous avez progressé de ce côté-là ? Vous arrivez à vous réguler un peu mieux ou vous sentez qu'à chaque fois, ça repart ?
Non, à chaque fois, ça repart, je dirais.
Ouais. Vous n'avez pas encore trouvé la clé pour y arriver ?
Pas encore, mais je ne désespère pas.
Mais non, il ne faut pas désespérer. Déjà, le fait que vous m'appeliez ce soir, ça veut dire que c'est que vous ne désespérez pas du tout. Non.
Pourtant aussi, c'était un peu l'appel entre guillemets, pas de la dernière chance, mais j'ai beaucoup d'idées noires et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais pour essayer de avoir un peu plus de lumière, on va dire.
Ouais. J'espère que de la lumière vous en trouvez un petit peu là, à travers notre échange, parce que vous avez un rôle, vous avez une place là. À occuper dans les... Vous entendiez tout à l'heure, Hélène, notre première auditrice, témoin, qui nous racontait cette histoire de justice où enfin, elle a pu tomber sur des personnes dans un petit tribunal de campagne en Corrèze qui ont bien fait leur boulot. Là, en fait, vous avez choisi un travail, vous allez avoir un rôle très important, en fait, un rôle qui va impacter la vie, ouais, qui va impacter la vie de beaucoup de personnes, parce que le rôle que vous allez avoir en tant que greffière, au même titre que le juge, au même titre que le procureur, vous allez d'abord avoir un rôle. Souvent, je dis que les juges, les procureurs, toutes ces personnes qui travaillent dans la justice et qu'on n'entend pas souvent, d'abord parce qu'elles ont un travail qui impose un devoir de réserve, mais ce sont des rouages essentiels pour que notre société marche, fonctionne bien, vous voyez ?
Oui.
Et donc vous allez faire partie de ces rouages-là, et c'est super important. Donc j'espère, hein, Cécilia, que vous allez, après ce coup de fil... prendre un peu plus conscience de votre importance, de votre valeur, parce que vous avez de la valeur aux yeux de vos amis. Vous ne m'avez pas parlé de vos parents, mais je suppose que vous avez des parents. Est-ce que vous avez des frères et sœurs ?
Oui, j'ai deux frères.
Et ça se passe comment avec vos frères ?
Mon petit frère, on est très proche. Et avec mon grand frère, c'est plus compliqué parce que c'est avec lui qu'il y a eu...
D'accord. Vous devriez chercher sur Internet. L'année dernière, comme vous écoutiez l'émission que je faisais l'après-midi, il y a eu une émission sur cette problématique. Hein. Et un de nos témoins avait écrit... Alors, je ne me souviens plus de son prénom et de son nom, et j'espère qu'il m'en excusera, parce que j'ai un problème, moi, avec les prénoms et les noms. Je pourrais vous appeler Isabelle dans 30 secondes, vous voyez. Il faut vraiment que je me concentre toujours pour... Et là, j'ai la chance d'avoir Natacha et Florian qui mettent en gros le prénom, vos prénoms, parce que j'ai un problème avec ça. Mais il a écrit un livre qui relate des agressions qu'il a subies par rapport à son frère. Et il a écrit un livre dont le titre est « Parce que les grands frères font comme ça » ou « Parce que les grands frères font toujours ça ». Cherchez sur Internet.
Je vous avoue que j'ai pas trop la force de regarder ce genre de sujet.
D'accord.
De lire,
Mais peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, vous aurez cette force-là. Et voilà, je vous dis pas ça pour maintenant, mais voilà, c'est peut-être vous garderez ça dans un coin de votre tête, et peut-être qu'un jour vous aurez. Ça sera le moment de lire ça. Mais en tout cas, j'en reviens à ces personnes pour lesquelles vous avez de la valeur, vous voyez, pour qui vous êtes... vous êtes quelque chose auquel ils tiennent, une personne qui a vraiment une place dans leur cœur. Vos parents, vous vous entendez bien avec vos parents ?
Oui.
Ouais. Alors... Mais il y a plein de bonnes choses dans votre vie aujourd'hui quand même, Cécilia. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Parce que quand vous me dites que vous pensez à, que la mort, ça ne vous fait pas peur, et que j'entends comme ça, entre vos mots, que vous mettriez bien fin à vos jours, ça ne marche pas, c'est pas possible, ça.
Parce que paradoxalement, j'ai l'impression d'être une vieille âme de 80 ans.
Mais oui, mais si vous êtes une vieille âme de 80 ans, peut-être que vous êtes une vieille âme de 80 ans, et peut-être que vous avez eu plusieurs vies avant. Qui sait ? Mais pourquoi vous ne regardez pas plus tout ce qui fait de vous une personne qui a de la valeur aux yeux des autres, et qui peut apporter demain, qui a apporté aujourd'hui sans doute sans savoir, ou peut-être vous le savez, mais qui demain va contribuer à faire du bien, à aider les autres. Le sens que vous devez donner aujourd'hui à votre vie, parce que vous êtes hypersensible, parce que vous êtes intelligente et que vous avez cette chance d'être peut-être cette vieille âme de 80 ans, c'est de décider ce soir là, à partir de là, maintenant, que vous allez mettre un sens encore plus important, encore plus affirmé dans ce que vous devez être pour l'autre. Parce que pour l'autre, si vous faites des choses, obligatoirement, cela va vous apporter vraiment de la joie, vous voyez, quelque chose de bon pour vous, parce que vous êtes... Votre place, c'est ça. Votre place dans ce monde... Elle se définit par ce que vous allez faire pour les autres. Parce qu'en faisant pour les autres, vous allez faire pour vous.
Oui, c'est du bien indirectement.
Ben ouais, ouais. Parce que vous avez la capacité de faire du bien. Parce que vous avez la capacité de... Parce que vous êtes intelligente, d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas. Vous allez avoir la capacité de porter votre regard sur quelqu'un sur qui on ne porte jamais le regard. Vous allez avoir la capacité de tendre la main à celui à qui on ne tend jamais la main. Vous allez avoir la capacité de dire un mot gentil dans la rue à un homme, voilà, qui, quand il fait la manche, se voit rembarré avec des gens qui le regardent par, avec mépris. Vous voyez, vous avez plein de rôles à jouer, mais vous, c'est votre rôle que vous allez jouer. Ça n'est pas, voilà, ça n'est pas rentrer dans un rôle fictif, hein. C'est le sens que vous devez donner à votre vie aujourd'hui, c'est-à-dire offrir à l'autre tout ce que vous avez à offrir, parce que aujourd'hui j'entends combien vous avez voilà, vous êtes hypersensible. Vous me disiez tout à l'heure, je peux regarder un reportage à la télévision et me dire voilà, de voir des enfants qui souffrent, ou voir des gens qui souffrent à cause de la guerre, ou tout ça continuera, sauf que ces gens-là dont vous parlez, à chaque fois que vous sortez de chez vous aujourd'hui, il y en a. Vous voyez ? Et que demain, de par votre métier de greffière, bien évidemment, mais aussi par le sens que vous allez donner à votre vie, vous pouvez aller faire des maraudes, vous occuper des
plus démunis.
Vous en avez fait ?
J'en ai fait. Je vous avoue que sur le coup, ça m'a...
Ça vous a remué ?
J'avais mis un chapeau, enfin, je ne m'étais pas déguisée, mais pour essayer d'être un peu en personnage, j'ai essayé de prendre de la distance et ça l'a fait sur le coup. Mais je suis rentrée chez moi, mais j'ai pleuré, j'étais pas bien.
Mais peut-être que c'était trop d'un seul coup.
Peut-être. Mmh. Ouais.
Donc peut-être que, encore une fois, la feuille blanche en forme de bilan. Voilà, ce coup-ci, j'ai fait ça. C'était peut-être un peu trop pour moi, ça m'a peut-être un peu trop ébranlé. Mais je sais que j'ai la capacité d'analyser ce qui m'a, voilà, ce qui m'a ébranlé, et peut-être la prochaine fois, je doserai un peu plus les choses. En tout cas, moi, ce que je sais ce soir, c'est que vous avez un rôle au même titre qu'on en a un chacun, mais que vous, la nature vous a fait comme vous êtes, mais avec cette intelligence et cette sensibilité, et que ça, c'est un trésor que vous avez pour vous, mais aussi à offrir aux autres. Donc n'oubliez pas ça.
Merci beaucoup.
Et les moments, Cécilia, où vous broyez du noir, où vous avez envie de mourir, n'oubliez pas ce que je vous dis, quoi. Vous n'avez pas le droit, parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de vous.
Mais je vais la réécouter, l'émission. Podcast.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci à vous, et vous m'appelez quand vous voulez.
Merci infiniment.
Au revoir,
bonne
Cécilia.
Bonne soirée. Au revoir.